Sur les ondes de CKIA FM cette semaine à Ainsi soit-elle, un retour bien sûr sur la Marche mondiale des femmes en compagnie d'Hélène.
Allô!
Un choix musical extraordinaire en compagnie de Marie. Salut Marie!
Allô, allô!
Et moi je reçois en entrevue Stéphanie Maillé qui a participé à une recherche sur les propos masculinistes dans le magazine pour femmes Châtelaine. Donc dès le retour de la musique, on va s'entretenir avec Stéphanie. Alors pour le moment, on passe en musique. Marie, qu'est-ce que tu nous as préparé?
On s'en va tout de suite avec Sinéad O'Connor sur une reprise d'une version d'une musique que vous connaîtrez sûrement. Je vous laisse écouter.
Ainsi soit-elle, vous venez d'entendre Isabelle et les rats. Oui. La pièce s'intitulait
L'espérance.
Merci Marie. Alors comme tel que promis, on reçoit ce soir en entrevue Stéphanie Maillé pour nous parler de la recherche « Quand le prince charmant s'invite chez Châtelaine », analyse de la place des hommes et des discours antiféministes et masculinistes dans un magazine féminin québécois. Alors, Stéphanie Maillé est étudiante en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, au profil études féministes. Elle fait son mémoire sur la non-mixité et elle a participé à cette recherche-là avec Francis Dupuy-Derry. Alors, bonjour Stéphanie.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'abord dans quel contexte a été produite cette recherche-là? C'est une recherche qui a cours depuis 2007.
On a commencé les premières recherches justement en 2007. La recherche, elle est faite en partenariat avec l'Art des Centres de Femmes du Québec dans l'objectif de construire avec elle une réponse à ces discours antiféministes et masculinistes, puis aussi d'identifier où ils se situent. Donc, l'intérêt est parti de là, d'aller voir ce qu'il y avait dans les magazines féminins. Puis on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites à partir d'une perspective féministe pour voir à partir des images, les discours qui sont transmis de façon inégalitaire, beaucoup à partir des images, mais on a moins analysé les textes et encore moins dans une perspective de voir que la place qu'occupent les hommes et le discours masculiniste plutôt. Donc, c'est de là qu'est partie la recherche dans Châtelaine. Puis au début, on avait pour objectif d'aller voir deux générations de femmes. Donc, on a feuilleté un peu Châtelaine et aussi Fille d'aujourd'hui. Puis on s'est rendu compte que dans Fille d'aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'espace laissé au discours masculiniste. Donc, on s'est vraiment concentré sur Châtelaine. Puis, on a aussi complété avec Clin d'œil et Elle Québec pour 2005 à 2009.
D'accord. Et je sais que certains de nos auditeurs et de nos auditrices sont déjà familières avec le terme, mais vous expliquez assez bien en début de recherche qu'est-ce que vous entendez par discours antiféministe et masculiniste. Peut-être que tu peux nous en glisser quelques mots.
Oui, en fait, un discours anti-féministe, ce que nous, on entendait dans le cadre de la recherche, puis en général, ce qui est entendu par ce thème-là, c'est un peu des discours, en fait, et des discours et des pratiques qui s'opposent autant implicitement qu'explicitement aux discours et aux pratiques portées par les féministes, mais aussi visent à faire des obstacles aux femmes dans leurs différents avancements dans la société, que ce soit de façon sociale, politique, économique. Dans le fond, c'est enfreindre d'une certaine manière les avancées vers l'égalité. Puis le présupposé, c'est que le féminisme viendrait ébranler l'équilibre fondé sur la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Donc. Puis le masculinisme, ce qui est entendu par ça, c'est une forme particulière que prend l'antiféminisme. Et ça prétend en fait que les femmes et les féministes domineraient la société, notamment au Québec, que les hommes n'auraient plus de rôle significatif à jouer dans la société. Puis ça s'articule principalement autour du concept du malaise identitaire pour les hommes. Puis après ça, les autres, ils vont décliner ça dans certains axes principaux qui vont être notamment ceux du suicide, du décrochage scolaire, de la violence conjugale, aussi des problèmes des pères avec les tribunaux.
Ah, intéressant. Et le prince charmant dans tout ça, le titre est inspiré de quoi?
En fait, c'est que ce qu'on s'est rendu compte à force de feuilleter tout le magazine, parce qu'on est parti à partir de 1960, donc on a feuilleté plus de 30% du magazine, puis ce qu'on se rend compte, c'est que dès le début, dans Châtelaine, il y a une place qui est accordée à la parole des hommes, notamment par une tribune mensuelle qui leur est offerte là, à la première publication de 1960, mais c'est que cette parole-là, puis bon, dans les années 60, c'est beaucoup des hommes qui vont se positionner par rapport au changement dans la société, mais dans les années 70, qui va se poser un peu au même moment du déclenchement des groupes de conscience féministes, donc une prise de conscience des hommes par rapport à leur virilité, puis dans les années 80-90, va se transformer le discours pour s'opposer de façon victimaire des transformations dans la société, bon, notamment mises en raison des changements encourus par les luttes féministes. Puis, bon, va apparaître à la fin des années 80 des dossiers spéciaux qui portent sur les hommes, sur leur malaise en raison des changements dans la société. Par exemple, le premier en 1989, écrit par Richard Martineau et Sophie Gironnet. Puis, le thème central, c'est que les hommes vont mal à cause après 15 années de féminisme. Donc, à chaque année, de façon périodique, il va y avoir des dossiers qui vont traiter spécifiquement des hommes, de leur malaise, de leurs difficultés dans le couple. Et bon, le paroxysme de ça, c'est clairement en janvier 2009, où il y a un dossier qui est titré « Ces hommes qui tuent leurs femmes ». Et tout le dossier, en fait, dont le titre, je le rappelle, c'est « Les hommes qui tuent leurs femmes », traite des ressources manquantes pour s'occuper des hommes victimes qui eux-mêmes font de la violence aux femmes. Puis l'ensemble du propos tenu beaucoup par Maud Goyer plutôt, qui est bon celle qui portait le dossier, dit que les ressources sont monopolisées par les féministes, donc c'est à cause d'elles, si les hommes n'ont pas de ressources, qui font qu'elles vont finir par tuer leurs femmes. Donc, il y a vraiment un déclin de la réplique féministe au courant des années. Quoique Châtelaine ne s'est jamais posée comme féministe, mais elle était beaucoup plus sensible à ces luttes-là au début. Et donc, cette réponse-là se rétracte pour laisser une place de plus en plus grande à ce discours des hommes et des masculinistes. Donc, c'est pour ça qu'on a dit que Châtelaine, le Châtelain s'invite chez Châtelaine, parce que en fait, la porte lui est ouverte. Il s'installe bien grand, puis il a la liberté de pouvoir avoir un discours assez culpabilisateur auprès des femmes, puis ben la réponse n'y est plus. Donc, c'est ce qui est problématique. Puis, d'ailleurs, une actrice qui dit toujours à quand la réponse à des argumentaires comme celui-là, parce que ça serait une insulte à vos lectrices de ne pas le faire.
Intéressant. Je suis vraiment choquée par ce que tu viens de nous dire sur le numéro de 2009. Donc, votre question de recherche était, est-ce que la montée de l'antiféminisme et du masculinisme dans les années 80-90 a eu une influence sur le contenu du magazine féminin Châtelaine? La réponse, définitivement oui. Comme tu l'as dit, ça dépendait des périodes, tout ça. Mais En fait, vous terminez votre rapport avec des recommandations pour le regroupement des centres de femmes du Québec, mais aussi des recommandations pour le magazine Châtelaine. Peut-être que tu pourrais nous en parler un petit peu plus.
Oui, parce qu'en fait, la sortie du rapport de recherche s'inscrit au même moment où Châtelaine fête ses 50 ans. Donc, le nouveau volume est en magasin là, de leur 50e anniversaire. Puis, nous, on se disait que c'était important de ne pas juste se positionner de façon critique, parce que clairement, ce qu'on leur dit, c'est qu'elles sont un vecteur de discours antiféministes et masculinistes, mais aussi, on veut se poser de façon à proposer quelque chose. Évidemment, on pense pas qu'elles vont toutes mettre en pratique, mais il y a certaines choses qu'on pense qui pourraient être intéressantes de développer. C'est pour ça qu'on a fait certaines recommandations, notamment la première, c'est de procéder à l'actualisation de la conception qu'ont les lectrices de ce que sont les luttes féministes, parce qu'on se rend compte que c'est figé dans les années 70, il n'y a rien qui s'est fait après, il n'y a pas de nouvelles réflexions ni de nouvelles pratiques, donc on aspire vraiment à ce que ça soit transformé, notamment parce que dans un des volumes de Châtelaine, elles ont fait un dossier sur le féminisme, puis elles leur ont demandé aux féministes, et est-ce que l'égalité est acquise? Bon, à 67%, les femmes ne sont pas féministes, qu'elles disent, mais à 85%, l'égalité n'est pas acquise. Donc, il y a là vraiment la nécessité d'actualiser la conception des luttes féministes.
Puis, du côté du regroupement des centres de femmes du Québec, la réception de cette recherche-là, ça a été comment?
On a présenté les résultats de cette recherche-là dans le cadre de leur congrès annuel qui avait eu en juin. Et à la suite de la présentation des différents constats qu'on a fait de la recherche, elles en sont venues à la conclusion que c'était vraiment important de se réapproprier le discours, parce que s'il n'y a plus de réponse, c'est que peut-être une partie des lectrices sont abandonnées ou se fâchent chez elles, décident de laisser tomber le magazine et ne répondent plus. Donc, ce qu'elles croient important, puis c'est ce qu'on finit par proposer à la suite du rapport, c'est justement de le discours, d'apprendre à le déceler dans les pages, de formuler un contre-argumentaire puis de répondre quand c'est le cas, mais c'est surtout individuellement et par rapport à la revue de constituer une réponse, de démontrer que les féministes existent encore et que un espace laissé si grand au discours antiféministe et masculiniste, ben ça pose problème aux femmes et même à celles qui sont féministes et qui sont lectrices de Châtelaine.
Je lisais dans les grandes lignes des résultats de recherche aussi qu'à la fin des années 90 et au début des années 2000, il y avait une resurgence du discours néo-traditionnaliste dans Châtelaine qui voulait un peu ramener les femmes à un rôle social de mère au foyer, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Oui, bien en fait, la notion du néo-traditionalisme, c'est de développer une conception repoussoire du féminisme et de ses excès. Les grandes lignes qui ressortent de ça, c'est que les luttes des femmes, des luttes des féministes seraient allées trop loin, elles auraient perturbé justement leur rapport avec leurs enfants, elles les auraient trop invitées à faire des carrières, ce qui les aurait fatiguées trop, et de par leur prise de pouvoir, notamment monétaire par rapport à leur carrière, elles auraient désisé leur couple. Et ce qu'on se rend compte, c'est que à cette époque-là, autant les femmes que la rédactrice en chef de cette époque, qui était une Lassance, portent vraiment un discours qui est celui-là. Ce qui fait que les femmes, elles, notamment dans l'espace des lectrices, disent « Est-ce qu'on peut prendre en considération les mères? » Est-ce que c'est... C'est comme si elles reprenaient leur affirmation politique par le biais de leur rôle social, qui est celui d'être mère. Puis, ce qui devient assez culpabilisant, parce que, justement, comme tu disais, on invite les femmes à revenir à la maison, puis c'est très présent à la fin des années 90, comme quoi que les femmes sont épuisées, mais ce qui apporte pas l'aspect critique qui est celui de pourquoi les femmes sont épuisées, mais est-ce que, justement, on ne peut pas questionner la division sexuelle du travail, la répartition des tâches, est-ce que les femmes en font trop? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui en fait moins? C'est peut-être que c'est la question qu'on pourrait se poser. Donc, le discours néo-traditionnaliste, c'est celui-là, c'est aussi un discours victimisant de ce que les femmes prennent comme place dans la société.
Peut-être que mes collègues ici avaient ont des réactions aussi par rapport à tes propos, peut-être, Hélène?
Oui, ben j'avais une question. Ça m'a interpellée ce que tu disais par rapport à la question de l'actualisation du féminisme, puis aussi peut-être la couverture des luttes, parce que tu disais tout à l'heure que justement, si je me trompe pas en les chiffres, 70% des lectrices avaient dit on n'est pas féministe, mais un peu plus disaient 85, je crois. Tu peux me corriger que l'égalité n'était pas atteinte? Puis ma question, dans le fond, c'était, est-ce que vous avez vu dans votre revue, justement, de littérature de Châtelaine, est-ce qu'il y a une couverture des luttes actuelles, par exemple, parce qu'ils se sont prononcés, ou une couverture sur Polytechnique, ou plus récemment sur la Marche mondiale des femmes?
Ben c'est ça. En fait, les chiffres que tu as notés sont les bons. Ça part d'un dossier sur le féminisme en mars 2008, qui est le seul, en fait, qu'on a recensé dans la littérature de Châtelet, contrairement à quatre sur les hommes.
C'est déjà très parlant.
C'est très parlant. En fait, elles en parlent, mais plus ou moins, et de façon assez distante. Si on parle d'événements importants, névralgiques pour le féminisme, notamment ce qui entoure Polytechnique, il y a eu un silence total pendant 6 mois, où on n'a pas abordé la question, mais c'est assez caractéristique des médias à cette époque-là, où on n'a pas pris position, mais il y a eu à cette époque-là un homme qui a pris un espace dans le courrier des lectrices pour dire qu'un geste comme celui-là était prévisible parce qu'il y a trop de femmes dans l'espace public. Donc, ce qui est problématique, c'est que ça a été publié, tu sais.
Ouais.
Donc, voilà.
C'est vraiment comme s'il soutenait justement la thèse de Lépine, là. Carrément, oui. Là.
Et concernant la marche du pain et les roses, par exemple, oui. On n'en a pas du tout parlé.
OK.
Parler un peu plus de la marche mondiale de 2000, par contre. Mais vraiment un entrefilet qui était couvert par André Désiron, qui était un des seuls hommes qui couvrait les dossiers des femmes à partir de fin des années 90 jusqu'à début 2005, qui est vraiment pas la personne la plus féministe. Avec ses propos, notamment, il dit que les pro-féministes sont des hypocrites parce que la virilité est muselée par le féminisme au Québec.
Mais on s'est bien connu, hein, on dit le royaume des féminines nazies, des nazis féministes, ou je sais plus comment ils nous appellent, ou les vaginocrates au Québec. Mais c'est intéressant, je trouve, justement, de voir que non seulement Châtelaine, avec votre recherche, on voit, oui, vecteur des discours antiféministes et masculinistes, mais en plus, c'est ça, aucunement le revers de la médaille, donc pas de réponse, pas de couverture des événements féministes, on reste figé vraiment dans la vision de brûleuse de soutien-gorge des années 70, comme s'il se passait rien actuellement, donc c'est assez intéressant de voir. Ben c'est intéressant, c'est choquant et inquiétant, mais pas surprenant certainement.
Moi, ce qui me parle le plus, c'est de voir que les femmes à 85% disent que l'égalité n'est pas acquise, ce qui nécessite la pertinence des luttes féministes. Puis, ben, dans leur cinquantième, dans leur volume pour leur cinquantième, on peut pas dire que c'est parfait, mais à certains égards, elles visent à restituer l'histoire des femmes et des féministes qu'elles ont accompagnées dans les 50 dernières années. Puis elles offrent une place intéressante à la voix des femmes puis à leur lutte. Évidemment, elles l'axent dans une perspective de dialogue avec les hommes, mais elles reconnaissent les luttes. Il y a eu un changement éditorial là, à la fin, durant la dernière année et demie. Et depuis que Mme Ravary a quitté, ce qui fait un bien important quand même à la revue. On ne peut pas dire que ça l'a repris ses positions revendicatives, ses perspectives revendicatives du début, mais il y a...
C'est pas nos passarannes,
là. Non, il ne sera jamais une publication féministe concernant une publication capitaliste, là, mais il y a une certaine tendance nouvelle qui semble s'instaurer. On va voir ce qui va se passer avec les prochaines publications, là.
Ouais, c'est très intéressant.
Si nos auditrices et nos auditeurs veulent se procurer ou consulter votre rapport de recherche, est-ce qu'il y a un moyen facile de se le procurer?
Oui, il est en ligne sur le site de l'Aire des Centres de Femmes du Québec. Donc, c'est L'R, Centre des Femmes du Québec. Il est en ligne là depuis quelques jours maintenant.
Bien, merci beaucoup, Stéphanie. On va certainement mettre le lien sur notre site Internet.
Félicitations pour cette recherche-là.
ORG. Est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais nous parler qui n'ont pas été couvertes?
Non, mais merci beaucoup d'avoir accordé une attention à cette recherche. Puis je trouve votre mode d'organisation très inspirant.
On pourrait en reparler, justement. On pourrait t'inviter sur ton sujet de mémoire à une autre émission.
Oui.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Vraiment une recherche intéressante, je trouve, puis je trouve ça quasiment rassurant de savoir que Fille d'aujourd'hui, finalement, a écharpé à leur recherche pour manque de propos masculinistes, pour avoir été abonnée à cette revue très longtemps quand j'étais jeune.
On pourrait certainement en parler
autant
qu'elle fait à d'autres niveaux.
Mais c'est moins pire qu'adorable, Fille d'aujourd'hui. Je tiens à prendre cette position ce soir, même si je suis plus à jour.
OK, on s'en va en musique avec Isabelle Simard, vous connaissez sûrement. Trash Campagne.
Oh yeah!
De la simplicité. Chérie, veux-tu aller chercher, s'il te plaît, dans le patine d'or, les bâtons qu'on a achetés pour faire cuire l'igmo, les petits chaises du Canadien Tao? Check donc sur mon portable, puis mon cellulaire est encore plugué. Papa, papa, qu'est-ce qu'on entend? On dirait des bruits de moteur. Ah ça, c'est des véhicules tout-terrain que les habitants en campagne utilisent. Obtenir une expérience de loisir optimale. 6, 12, 24, ça! Ça, c'est la gang de Saint-Rache. Qui arrive dans le vent quatre roues. Hé, tabarnak, c'est qui t'a volé notre pot à feu? Pense encore lisse, Bobby. On n'a pas fait du moche pour rien à soir. On va leur montrer comment qu'on allume ça et faire campagne sans taganer sa gorge. Welcome to the Trash Campagne! Trash campagne, trash campagne, la trash campagne. Oh, la trash de gang, les colons pagnons qui trash, les habitants de Boucan. Le France-Québec 417 va bientôt atterrir à l'aéroport. Pet, pet, pet. Dis chérie, est-ce que tu crois que c'est beau le Québec? Pour faire de la randonnée pédante. Oh putain, j'espère que j'ai pas oublié mon bonnet, mes pantalons de marche. J'espère qu'au prix qu'on a payé, nous pourrons avoir des photos du caribou et de l'habitant chemise à carreaux. Hein. Chérie, est-ce que tu crois qu'on pourra arrêter dans la cabane en haut de l'arbre pour prendre une petite boisson énergisante? Oh putain, mais qu'est-ce que j'entends? On dirait des coups de fusil. Ça, chérie, c'est des Haïtiens qui vivent encore de chasse et de pêche et du caribou, évidemment. Ah ouais, Gilles, manque-le pas! Sans la mitraillette, sans la mitraillette. C'est bon, gros, tu l'as eu! On va fêter ça! 10, 12, 24, ça! Ça, c'est la chasse aux chevreuils dans le parc régional! Deux jours que les Guélis Pyrénales attendent dans leur cache.
Il y a deux ans passés, c'était par un vieux garçon, mais je vous dirai pas le nom. Il y a une moustache en prêté, puis un beau petit short coupé, mais quand il vient nous assurer, il sait comment se placer les pieds. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois arriver, elles vont ma porte puis vont me cacher. Du matin, on les voit sur le chemin, ils nous regardent en souriant, c'est pour nous arracher d'argent. Quand ils savent qu'on est passé, ils passent à nous regarder, mais quand ils viennent à la maison, je les reçois à ma façon. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois arriver, je bats ma porte puis je vais me cacher. Parle-moi en passé quand je les vois à leur départ. Ils viennent avec l'inspecteur, ils pensent bien de nous faire peur. Quand ils voient que je suis fâché, dans ce temps-là, tu es poussé. Leur chapeau est accroché, ils prennent pas le temps de l'emporter. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois arriver, je barre ma porte puis je vais me cacher. Pour collecter, ils peuvent tout nous arracher, mais quand ils savent qu'on a d'argent, faut leur payer 4 semaines d'avant. Ils mettent toujours leur habit neuf pour faire plaisir aux petites veuves, et c'est quand mon mari est pas, ils viennent toujours dans ce temps-là. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois arriver, je barre ma porte puis je vais me cacher. On a un nouveau-né, dans son lit, on les voit arriver. Le médecin est pas parti, qui sont rendus au pied de notre lit. Et avec une belle manière, ils essayent de nous faire accroire qu'ils peuvent assurer le bébé avant qu'il soit baptisé. Oh, les agents d'assurance, c'est comme ça que je les arrange. Quand je les vois arriver, je barre ma porte puis je vais me cacher.
C'était la Bolduc sur les ondes de CKFM 88,3. Vous êtes avec les filles d'un Sisquatel. Et maintenant, avant de faire un retour sur la marche mondiale des femmes, c'est Hélène derrière le micro. J'avais envie de faire une toute petite brève sur le collectif opposé à la brutalité policière, un collectif qu'on aime bien ici à un Sisquatel pour leur mode d'action puis aussi les causes qu'ils défendent. Donc, le 15 octobre dernier, le COBP a lancé un message au chef du service de police à Montréal. On sait qu'ils sont beaucoup dans un peu dans la revue, justement, vraiment faire l'historique de ce qui se passe au niveau des arrestations, au niveau des homicides contre des personnes itinérantes ou même contre des militaires, donc au niveau pas juste du profilage racial, mais du profilage social également. On leur doit vraiment une revue de littérature. Je ne sais pas comment dire. Vraiment, ils ont recensé toutes les arrestations ou les abus policiers, les bavures policières qu'il y a pu y avoir. Donc ça, c'est vraiment intéressant le travail qu'ils font. Moi, c'est comme ça que je les ai connus en 2000 lors du Sommet des Amériques. Puis ils continuent vraiment à faire un travail super intéressant là-dessus, à sortir des brochures, puis vraiment documenter un peu cette question-là. Donc, dans le fond, le COBP a déposé à l'adresse même. Moi, j'aime bien ça, hein? Les noms, les gens... ont des adresses et des noms. J'aime bien cette forme d'action. Donc, le groupe a déposé à l'adresse de Marc Parent le rapport sur la judiciarisation des personnes itinérantes à Montréal qui était paru en 2009. Puis en fait, en faisant ça, le collectif, ce qu'il visait, c'était de réagir au plan d'action ciblé en itinérance qui a été lancé par la Ville, donc mercredi dernier. Selon le COBP, ce plan ne contient aucune mesure concrète qui s'attaque à la surjudiciarisation, justement, des personnes itinérantes. Entre autres, il y a Sophie Sénécal, qui est porte-parole du COBP, qui soulignait que la population itinérante est toujours victime de profilage social, hein, de nettoyage social. Selon elle, il est regrettable que la Ville ne soit pas inspirée du rapport paru l'an dernier qui suggérait justement des pistes de solutions plus concrètes, travaillant sur les causes vraiment structurelles du problème, plutôt que juste des espèces de patchs, hein, d'essayer de justement de les tasser, de les cacher, ces personnes-là, parce que c'est pas beau pour les touristes. Et puis pour les gens de tous les jours, justement, pour les bourgeois, on va appeler un chat un chat. Donc, pour les bourgeois, bourgeoises et les touristes. Donc, le document mentionne que bien que les itinérantes représentent, dans le fond, moins de 1 % de la population, ils ont reçu 20,3 % des constats pour infraction municipale par la police, puis ça seulement en 2005. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces constats-là? Ça veut dire, dans le fond, des personnes qui vont recevoir... des contraventions parce qu'elles ont dormi dans un parc ou parce qu'elles ont d'abord quitté de l'argent, etc.
Ou juste parce qu'elles sont restées 3 heures assises sur un banc, c'est ça. Là.
Oui, exactement. Donc, c'est en ce sens-là qu'on parle de profilage social et de nettoyage social. Donc, en tout cas, éventuellement, je m'engage d'ici Noël, certainement, à faire une entrevue avec quelqu'un du COBP sur cette question-là parce qu'elle est brûlante et intéressante. Et qu'on n'a pas de groupe de ce genre, en tout cas, pas organisé comme le COBP à Québec, malheureusement. Même si ça s'est parlé souvent. C'est peut-être que ça va arriver. Donc, retour sur la marche mondiale des femmes qui a fait couler beaucoup d'angles, dont on a parlé en bien, dont on a parlé en mal. Vous savez déjà sûrement quelle prise de position on va avoir ici, ainsi soit-elle. Donc, je vous rappelle que les activités à Québec, et pas juste à Québec, dans le fond, au Québec, se sont passées du 12 au 16 octobre et ça a culminé en fin de semaine, le 17 octobre, par le Rassemblement national à Rimouski. Pourquoi je dis que ça a fait couler de l'encre de manière négative? On va commencer par ça parce qu'on veut pas accorder une trop grande tribune aux détracteurs de la Marche mondiale des femmes parce que moi, c'est mon premier commentaire que je partageais d'ailleurs avec un ami de l'équipe de Voix de Fait, Nicolas Lefebvre-Legault, puis on se disait que c'était assez surprenant de voir la différence de couverture qu'il y a eu sur la dernière Marche mondiale et celle-ci. C'est-à-dire que la dernière fois... Si je me trompe pas, c'est 2005. Je veux vraiment pas dire d'ennerie, mais je suis pas m'assure que c'était 2005. La Marche mondiale des femmes avait eu un peu la même couverture que la Marche bleue, dans le fond, hein, qu'on a eu dernièrement pour le retour d'une équipe de hockey à Québec. Donc, tu sais, tout le monde en parlait de manière un peu bon enfant dans les médias, bonne couverture, pas trop d'analyse. Alors que là, vraiment, on a pu voir la Marche mondiale des femmes qui s'est fait attaquer, mais vraiment de tout bord, tout côté, puis à travers elle, la FFQ. On a compensé, entre autres, à Éric Duhaime dans le journal de Québec et de Montréal, probablement. Hein, ils s'échangent pas mal, eux autres. Donc, Éric Duhaime qui a publié un article d'opinion où vraiment il démolissait la Marche mondiale des femmes et à travers ça, la Fédération des femmes du Québec en appelant carrément à sa démolition en disant que c'est une institution obsolète, que le temps de brûler les soutiens-gorge n'avait plus sa place, que la Fédération des femmes du Québec n'était pas représentative finalement. Il y a aussi Marie-Claude Lortie dans La Presse qui a écrit un article un peu du même genre où elle disait dans le fond qu'au Québec, on n'a pas besoin d'un nouveau mouvement de droite, mais on a bien besoin d'une nouvelle organisation pour représenter les femmes. Parce qu'évidemment, la FFQ ne le fait plus. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous allez sur le site de la Fédération des femmes du Québec, c'est qu'il y a Flavie Je crois que c'est Ouellette son nom de famille. Je veux pas dire de stupidité, mais en tout cas, sur le site, vous allez voir tout de suite la Fédération des femmes. Il y a une réponse à son article qui est très intéressant où elle démolit point par point les différentes informations. En fait, pas juste au niveau de l'opinion, c'est ça qui est intéressant. C'est entre autres, l'article de Marc-Claude Lortie commence en disant que Thérèse Casgrain était fondatrice de la FFQ alors que c'était pas le cas. Donc, elle y va vraiment pas seulement le débat idéologique sur lequel, dans le fond, on pourrait se dire que ce débat-là n'a pas de fin, mais elle y va vraiment en disant « ça, c'est faux, ça, c'est faux ». Entre autres aussi, il y a une accusation qu'on a beaucoup entendue, entre autres dans l'article de Marc-Claude Lortie, mais ailleurs dans les médias, comme quoi, même, j'ai été vraiment déçue dans Le Soleil, Brigitte Breton, que je trouve quand même souvent relativement intéressante, qui là, a pris le parti, son article, son éditorial, en fait, s'appelait « La marche rose ». Dans un premier temps, elle s'indignait du fait que, dans le fond, quand on parle de la... D'ailleurs, c'était très bizarre les liens qu'elle faisait. Elle s'indiquait en un que quand on parle de la question du port du voile, tout le monde s'indigne, tout le monde parle comment c'est important l'égalité des droits des hommes et des femmes. Ensuite, reprenait plutôt les revendications de la marche mondiale pour dire, là, elle était assez d'accord. Elle disait, c'est vrai que le fait d'être femme, tu vas être plus pauvre, etc., etc. Mais elle terminait quand même avec une critique sur la marche mondiale des femmes et sur la FFQ en disant que c'était trop associé à Québec solidaire et aux centrales syndicales, puis qu'il faudrait peut-être que, dans le fond, il y avait des remises en question à faire du côté de la FFQ. Peut-être, juste pour conclure là-dessus, vous pouvez deviner déjà que pour moi, Éric Duhaime, gars de droite, masculiniste, on n'a pas besoin d'en dire plus. Marc-Claude Lortie, je vous invite vraiment à aller voir l'article de Flavie X sur le site de la FFQ pour voir comment elle argumente par rapport à elle. Mais par rapport à Brigitte Breton, moi, ça me dérange pas qu'on fasse des remises en question ou qu'on critique la FFQ. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est vraiment la question de trop proche de Québec solidaire ou trop proche des centrales syndicales. Je veux dire, à un moment donné, dans l'histoire, c'est très mal connaître l'histoire des mouvements sociaux au Québec pour parler que la marche mondiale peut pas être proche des centrales syndicales, qui se sont quand même, qui sont pas toujours à gauche, pas du tout dans leur prise de position. Au contraire, personnellement, pour m'être impliquée, et encore dans mon syndicat, c'est de plus en plus corpo, mais quand même, c'est clair que les centrales syndicales, on espère qu'elles vont se positionner proche de la marche mondiale des femmes. Puis pour ce qui est de Québec solidaire, Flavie, dans son article, répond très bien en disant, en rappelant que c'est suite à la dernière marche mondiale que Françoise David a démissionné de la FFQ puis a dit, bon ben moi, comment je vais lutter maintenant parce que je trouve qu'il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement. C'est qu'il faut, c'est la prise de position qu'elle a faite. Elle s'est dit, il faut aller au Parlement. Il faut créer un parti, puis c'est de là qu'est parti Option citoyenne, puis fusion avec l'UFP et Québec solidaire. Donc, encore une fois, maintenant, aujourd'hui, d'accuser qu'il y ait trop de rapprochement entre la Marche mondiale des femmes, la FFQ et Québec solidaire, c'est encore une fois faire preuve d'une méconnaissance totale de cette histoire-là. J'ai dit que j'en parlerai pas longtemps, c'est fini pour les méchants de ce côté-là. Mais pour la Marche mondiale des femmes, peu importe ce qu'on en a dit, peu importe si ça... Ça n'a pas sorti dans les médias. Ça a vraiment été, tant qu'à moi, un succès, mais vraiment sur toute la ligne, vraiment au niveau provincial. Je vous dirais que la mobilisation à Québec a été bonne, sauf que moi, pour être allée à une manifestation, on va y aller depuis le début, c'était du 12 au 16 octobre, il y avait une revendication par jour. Donc, ça a commencé le 12 octobre avec un rassemblement sur la revendication de l'autonomie économique des femmes. Là, il y avait une centaine de personnes, c'était vraiment le lancement des activités. Ça avait commencé par un souper communautaire, donc non mix, femmes et enfants, par contre, au Périscope. Donc, ça a été le lancement... Donc, relativement timide à mes yeux quand même. Puis là, je suis vraiment pas en train de critiquer les organisatrices parce qu'au contraire, moi, ce que je trouvais, ce qui ressortait, c'est que vraiment le comité organisateur à Québec s'est vraiment donné à fond la caisse. C'est peut-être juste que les gens sont pas sortis. C'est peut-être ça mon bémol que je trouve décevant parce que l'année dernière, lors du lancement des revendications de la Marche mondiale des femmes, on était plus que 600 dans la rue. Donc, moi, déjà, dès la première soirée, je me suis dit, oh, tu sais, le monde sort pas vraiment. Mais peut-être que l'explication, la justification, c'est que les gens ont gardé leur énergie vraiment pour la mobilisation à Rimouski. C'est sûr que d'avoir une action par jour aussi, c'était ambitieux. Par contre, j'ai vu des photos en Abitibi, 200 personnes dans la rue, aux Îles-de-la-Madeleine, 300 personnes dans la rue, Sherbrooke, les femmes qui bloquent les rues, à Montréal, ils ont suspendu des bannières sur les ponts. À Québec aussi, il y a quand même des actions intéressantes, donc j'y viens. La deuxième journée, le 13 octobre, c'était la manifestation qui était vraiment en lien avec la coalition contre la privatisation des services publics, donc pour le bien commun et l'accès aux ressources. Donc ça, c'était une marche symbolique en noir avec les fameux gants rouges, donc le symbole de la coalition. Où je suis allée, je vous dirais qu'on était une 70 personnes environ. Mais ce qui était intéressant, c'est que quand on est arrivé au point d'arrivée, donc jusqu'à Place d'Armes, il y avait eu une action directe le matin, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs mains rouges qui avaient été peinturées sur les murs du ministère. D'ailleurs, la veille également, les filles, les militantes de Rosemont avaient fait la job aussi à un autre ministère, celui de la solidarité sociale et de l'emploi, donc où elles avaient graffé en gros « Les femmes en ont assez de la pauvreté ». Donc, il y a eu ces petites actions-là quand même intéressantes qui se sont passées. Ensuite, là, il y a vraiment eu une action intéressante. Le 14 octobre, violence envers les femmes, c'est la revendication et le rassemblement avait lieu devant le palais de justice. Donc, il y a une soixantaine de femmes qui sont entrées masquées et qui ont fait ce qu'on appelle un freeze-in. C'est-à-dire qu'elles sont, ça avait eu lieu cette année, je crois, à Montréal. Donc, elles sont entrées dans le palais de justice. Pendant 3 minutes, on bouge pas avec le masque blanc. Puis ensuite, il y a une des militantes. Je vous dirais que c'est beaucoup les organisations féministes qui étaient derrière ça, donc comme Rose du Nord, par exemple. Et donc, elles ont suspendu une grande bannière et elles se sont mises à crier, dans le fond, le slogan de la marche mondiale qui était « Tant que toutes les femmes ne seront pas libres, nous serons en marche ». Donc, il y a eu cette action-là intéressante. Par la suite, elles sont sorties, elles se sont dirigées à l'extérieur, évidemment, le rassemblement était mixte. Elles se sont dirigées vers le parvis de l'église Saint-Roch et là, il y a eu une action plutôt sur la question de la marchandisation du corps des femmes. Donc, en fait, on a mis aux enchères les différentes parties du corps de la femme. Puis, en tout cas, pour j'ai 2-3 connaissances de 3 espions et espionnes qui étaient à l'action. Moi, je ne pouvais pas y être, mais qui disaient que c'était quand même, ça s'est bien passé. Encore une fois, 60 à 70 personnes, je vous dirais, qui étaient là. Finalement, la dernière manifestation, le 15, c'était paix et démilitarisation. Donc, à Québec, grosse tempête. Mais ailleurs, au Québec, il y a eu des actions, je vous dirais, plus justement de type direct. Donc, des bannières suspendues au pont. Je sais que sur la rive sud, il y a été 200 à marcher malgré le vent et la tempête. Et finalement, 16 octobre, c'était sur la question des droits des femmes autochtones. Donc, à Québec, ce qui se passait, c'est qu'il y avait une pièce de théâtre qui était présentée justement par les femmes autochtones. Sinon, à Rimouski, je pense que c'est la plus belle réplique, puis que ça a vraiment fait chaud au cœur, entre autres à Eve-Marie Lacasse, qui était à la Coordination nationale de la Marche mondiale des femmes, qui est une ancienne insiscouatelle, et bon, Alexa, la présidente de la Fédération, et de toute façon, toutes les militantes et les militants qui ont tourné autour de la Marche mondiale des femmes, je crois que ça leur a vraiment fait chaud au cœur avec toutes les attaques qu'elles avaient subies dans les médias, vraiment à défendre, entre autres, toute la controverse qu'il y a eu sur la fameuse capsule sur la guerre, où elles ont vraiment dû faire le tour des radios et des articles, publier des articles pour répondre aux attaques qu'elles subissaient. On attendait 5000 personnes à Rimouski, bien, il y en a eu 10 000. Donc, c'est vraiment, moi, en tout cas, j'avais vraiment les larmes aux yeux. J'étais supposée y aller, mais j'ai pas pu y aller, malheureusement, pour des contraintes X. Mais vraiment, c'était beau à voir. Puis je vous rappelle que, dans le fond, ce rassemblement-là national, il se faisait en solidarité avec le contingent international de la Marche mondiale des femmes qui était réuni en République démocratique du Congo pour dénoncer la situation des femmes qui vivaient dans les pays en conflit, qui vivent, en fait, dans les pays en conflit armé. Donc, pour les personnes à qui j'ai parlé qui se sont rendues au rassemblement, entre autres, une personne qui avait mis comme statut Facebook, en guillemets, puis je pense qu'il résume bien, qui disait « Aujourd'hui, j'ai marché, j'ai crié, j'ai pleuré et j'ai aimé. » Et je trouvais vraiment que c'était très beau. Peut-être pour conclure sur la Marche mondiale des femmes, ça continue à faire couler beaucoup d'encre. Pas plus tard que demain, il y a la présidente, donc Alexa, qui va être en débat à la radio, à Radio-Canada, contre d'autres personnes, entre autres Marc-Claude Lortie, justement, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça continue à faire couler l'encre. Tant mieux si on continue à en parler. Tout comme la couverture médiatique avant le rassemblement de Rimouski a été négatif, on a pu voir que la mauvaise foi des médias a continué, puisque le lendemain de la marche, où il y a quand même eu 10 000 personnes, là. Hein, je veux dire, on parlait de représentativité, on disait que la FFQ était pas moderne, etc. Ben, la une du soleil, c'est à l'heure que Rome, c'est plus proche que Rimouski, c'était la canonisation du frère André. Hein? Donc, en tout cas, je ne sais pas comment ça le fait réagir, Marie, mais moi, je me suis vraiment dit, il y a vraiment quelque chose, là. Il y a vraiment, on sent la droite, là, mais comme, moi, là, je l'ai vraiment senti à ce moment-là.
Puis le frère André, ça se trouve, ils l'ont vraiment canonisé, ils l'ont forcé à le canoniser la veille exprès pour qu'il y ait un événement.
Oui, quasiment, on pourrait y aller avec la théorie du complot. Mais oui, le dernier truc que je voulais vous dire sur la marche mondiale, que j'ai oublié de mentionner, qui est quand même important, c'est qu'il y a eu une occupation pendant la semaine à Montréal. Une dizaine de militantes de la marche mondiale des femmes qui sont allées occuper le bureau de la ministre Saint-Pierre, quand même assez longtemps, et pour obtenir une rencontre, puis une réponse satisfaisante aux revendications, puis la réponse de la ministre Saint-Pierre, ben, c'était d'envoyer la police, en fait. Mais il y avait quand même un rassemblement de solidarité à l'extérieur, puis on voyait que ça avait quand même vraiment galvanisé les troupes. Ça aussi, vous allez sur le site de la Fédération des femmes du Québec, vous allez pouvoir voir des vidéos qui ont été tournées, en fait, où les occupantes s'adressent aux personnes. Donc, ça fait un petit peu le tour de mon topo
merci Hélène,
impressionniste sur la marche mondiale des femmes. On va aller en musique, puis on va revenir tout de suite après.
Oui, on s'en va écouter Mahala Rai Band, une chanson qui s'appelle « Ding Ding Dong ».
Toujours sur les ondes de CKIA FM 88,3 avec une musique en arrière pour accompagner ma voix. On est déjà rendu au calendrier militant, donc je t'invite à prendre vos crayons et j'allais dire vos crayons, justement, d'habitude, féminisé. Prenez vos crayons, point final, pour, en fait, une activité ici que je voulais vous proposer. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, puis d'ailleurs, avant, on en parlait un peu plus des activités des Amis de la Terre de Québec, qui est un groupe écologiste à Québec, surtout, en fait, porté sur la question de l'écologie sociale. Donc, un groupe très intéressant qui a participé à de nombreuses mobilisations à Québec et qui présente souvent des conférences très intéressantes. Donc, lundi le 8 novembre à 18h30, l'activité s'appelle « Rivière d'argent ». Donc, en fait, ils vont présenter un film, c'est le titre du film, « Rivière d'argent », et ça va comme suit. Ils nous disent « Il est possible au Québec, pour des promoteurs privés, d'exploiter le potentiel hydroélectrique de certaines chutes sur nos belles rivières. » Donc, le film, en fait, analyse les enjeux d'une telle pratique. Il y a le comédien, entre autres, Gaston Lepage, qui nous transporte sur les sites que certains désirent voir exploiter, mais que d'autres veulent conserver à titre de patrimoine inviolable. Donc, la question, dans le fond, ici, c'est de voir quel type de développement on préconise. Hein? Donc, ce documentaire témoigne du combat mené par des citoyens et des citoyennes sur cette question-là. Il dure environ 50 minutes. C'est le lundi 8 novembre à 18h30. Ça serait intéressant que je vous donne l'adresse, n'est-ce pas? C'est au 870 avenue de Salaberie, local 210. Si vous voulez plus d'informations, 418-524-2744. Et leur adresse est www.atqquebec.org. Aussi, étant donné que le calendrier militant est très court, j'avais envie de vous donner ma référence, vous donner ma source, en fait. Notre source, c'est Squatel. C'est important de le souligner parce qu'en fait, c'est Michael Lessard, un militant du réseau du Forum social de Québec, Chaudière-Appalaches, qui fait un travail assez extraordinaire, c'est-à-dire de compiler, de ramasser toutes les activités vraiment de la sphère de la gauche, là, mais au sens large, ce qui se passe à Québec et de le mettre en ligne. Ça s'appelle le calendrier de la démocratie en action. C'est un rare média citoyen gratuit qui affiche vraiment tous les événements d'engagement social, démocratique, progressiste. Ça va des activités plus radicales, par exemple, de la Page Noire ou d'un Squatel ou du collectif de l'UCL à d'autres activités. Donc, c'est pas compliqué. Le site, c'est www.réseauforum.org avec un / calendrier. Et ça fait le tour pour aujourd'hui. Merci Marie pour la musique. Merci Evelyne pour son entrevue. Et on vous revient. Restez à l'écoute car suis immédiatement cultivons votre hip-hop.
Bonne soirée.